Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Soccer Love.
Sometimes maybe good, sometimes maybe shit. No leave. Leave what? No leave. Leave what?
Ooh. Brésil ou pas, Ronaldinho, machin chouette.
Balotelli, Aguero.
Soccer love is amazing.
Bonsoir à tous et à toutes, chers auditeurs, chères auditrices. Bienvenue à Soccer Love tous les vendredis soirs. 20h, 21h, CFAC, 88.3 FM, la radio de l'Université de Sherbrooke. Wissam Ben Stey avec vous pour la prochaine heure. Aujourd'hui, on parle ballon, on parle soccer, on parle foot. On a beaucoup d'informations à vous donner. On va commencer tout d'abord avec notre équipe nationale canadienne qui est en feu. On va en parler durant la première partie de l'émission. On va aussi parler de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est terminée, la Coupe du Monde des clubs. On va parler des transferts, de l'actualité. Et on va vous présenter un championnat européen. Et évidemment, on va vous parler de notre ami Cœur Dumas qui a un gros problème avec les chats. Donc, on va parler de ça tout à l'heure aujourd'hui à l'émission. Et évidemment, on aura toujours de la bonne musique. On va voir entre autres du Schwerches avec la chanson Forever. Donc, voilà. Donc, écoutez. Notre équipe nationale canadienne, juste pour vous dire un peu qui elle est, le soccer au Canada, comme vous le savez, n'a jamais été le sport préféré des Canadiens, le sport le plus suivi. D'ailleurs, pendant beaucoup d'années, ça passait même pas à la télé. D'ailleurs, encore aujourd'hui, là, ça prend des postes très spéciaux pour pouvoir voir les matchs de l'équipe nationale canadienne comme One Soccer. Ça ne passe pas généralement à RDS et dans les canaux mainstream. Donc, la culture soccer au Canada n'est pas encore... Elle est à des années-lumière de celle de l'Europe, de l'Amérique latine, et même aux États-Unis, malgré les grands sports américains, la culture foot aux États-Unis est quand même beaucoup plus populaire là-bas que la culture foot au Canada. Juste pour vous donner un parcours de l'équipe nationale canadienne, là, évidemment, en Coupe du Monde, l'équipe nationale canadienne n'a jamais participé, sauf une fois en 1986 au Mexique. Et une des raisons pourquoi elle a participé, c'est parce que, évidemment, le Mexique étant pays hôte, pays organisateur, donc le Mexique avait déjà une place, il y avait une place de plus pour la zone de la CONCACAF. Et durant cette Coupe du Monde-là en 1986, bien évidemment, c'était 3 matchs joués. 3 défaites.
Can't do it.
Aucun but marqué, 5 buts accordés. C'est la seule fois que l'équipe canadienne a fait la
Coupe
Can't
du Monde.
En Gold Cup, donc CONCACAF Championship, qui est évidemment l'équivalent de l'Euro, mais pour notre zone à nous, c'est un peu mieux, c'est-à-dire qu'elle a terminé 4e en 1977, 4e en 1981, championne en 1985, right? Championne en 2000, ça se passait du côté des États-Unis. En 2002, troisième place. 2007, demi-finale. 2015, phase de groupe, évidemment. Puis d'ailleurs, en 2015, il y avait des matchs au Canada. Et 2021, qui est la dernière Gold Cup, demi-finale. Right? Donc, quand même, l'équipe canadienne a quand même gagné deux fois le tournoi continental, ce qui est quand même très intéressant. Et là, maintenant, pourquoi je vous parle de tout ça? Évidemment, le Canada a remporté la médaille d'or aux Jeux olympiques de soccer masculin. Là, évidemment, je parle de soccer masculin ici. Hein? En 1904, le Canada a obtenu la médaille d'or aux Jeux olympiques de soccer, mais ça fait plus d'un siècle. Right? Donc, voilà. Donc, maintenant, je vous en parle parce que l'équipe canadienne est en train de bouleverser le monde du soccer, ça en parle absolument partout. Parce que premièrement, l'équipe canadienne est première de la zone de qualification de la CONCACAF pour la prochaine Coupe du Monde 2022 au Qatar qui va se passer dans moins d'un an. Et d'ailleurs, une Coupe du Monde, ça se passe à tous les 4 ans. Et c'est incroyable qu'un pays comme le Canada, non seulement va se qualifier, mais va probablement et peut-être, pas assurément, mais peut-être, probablement terminer premier de son groupe devant le Mexique, devant les États-Unis, devant le Costa Rica, devant le Panama, devant le Honduras, devant la Jamaïque, devant le Salvador.
And you watch.
And you watch.
Right? Donc, c'est incroyable qu'est-ce qui se passe là. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on en parle partout parce qu'évidemment, il y a des joueurs canadiens qui jouent dans des grands clubs européens. Je vais vous présenter le tout dans quelques instants. Mais juste avant qu'on se rende même au troisième tour de la zone de qualification de la Coupe du Monde, on va vous donner les matchs que le Canada a joués depuis 2021. Ça commence par des qualifications pour la Coupe du Monde, lorsqu'on parle ici de premier tour, deuxième tour, troisième tour. 5-1 contre les Bermudes, 11-0 contre les îles Caïmans, 7-0 contre Aruba, 4-0 contre le Suriname, 1-0 contre Haïti, en Haïti à Port-au-Prince, 3-0 contre Haïti. Ce match-là se passait du côté des États-Unis. Ça, c'était un match très important pour se qualifier pour le troisième tour, là. Donc, c'était Haïti ou le Canada. Et Canada a éliminé Haïti avec 4-0 sur l'ensemble des deux matchs. La Gold Cup, la dernière Gold Cup, le Canada a battu 4-1 la Martinique, 4-1 Haïti. Ils ont perdu 1-0 contre les États-Unis. En quart de finale, on a battu le Costa Rica 2-0. Et on a perdu en demi-finale 2-1 contre le Mexique, évidemment, qui est une équipe légendaire. Et pourtant, le Mexique nous a battu à la 98e minute, right? Alors qu'on avait égalisé à la 57e minute avec Buchanan. Ça se passait du côté du Texas. Et là, ensuite, on a commencé avec les zones de qualification. Le troisième tour, ce qu'on appelle l'hexagonal. L'hexagonal. Donc, il y a plusieurs équipes, évidemment, qui peuvent se qualifier pour un poste pour la Coupe du Monde. Les trois premiers sont qualifiés automatiquement et le quatrième joue un match de barrage contre une zone, contre une autre zone continentale. C'est soit l'Asie, soit l'Amérique du Sud ou soit l'Océanie. Donc voilà, quand on dit Océanie, ça rime avec souvent Nouvelle-Zélande. Donc dans ce groupe d'hexagonal, les équipes qui sont là, c'est Canada, Honduras, États-Unis, Salvador, Mexique, Jamaïque. Right? Et on peut même rajouter à ça Panama et Costa Rica. Donc, on en a 8. Donc, sur 8, il y en a seulement 3 qui se qualifient. Right? Et je vais vous donner les résultats. Ça a commencé le 2 septembre 2022. Canada, Honduras, 1-1 à Toronto. États-Unis, 1-1 contre le Canada à Nashville. 3-0 Canada à Toronto contre le Salvador. 1-1 Canada-Mexique à Mexico City au stade Azteca. 0-0 Canada-Jamaïque du côté de Kingston. 4-1 Canada-Panama à Toronto. 1-0 Canada-Costa Rica à Edmonton. Canada 2, Mexique 1 à Edmonton en Alberta alors qu'il y avait de la neige. Ça, c'est le match où est-ce que tout le monde s'est vraiment réveillé. Parce qu'avant ça, le Canada faisait bien, mais il n'y avait pas beaucoup de victoires. On avait eu 3 victoires environ sur 6 matchs, mais là, tu bats le Mexique à domicile chez toi, ça envoie un message, ça envoie un signal fort. Et en plus, c'était pas une victoire volée. 2022, Canada gagne au Honduras 2-0 à San Pedro Sula. Canada bat les États-Unis 2-0 à Hamilton en Ontario, qui est pas très loin de Toronto. Ça, c'est là que les gens se sont réveillés et ont dit « Ok, Canada is for real ». Parce que là, on est invaincu et en plus, on a battu États-Unis et Mexique. Et en plus, on est premier du groupe parce que le dernier match s'est joué le 2 février. Canada 2, Salvador 0 à San Salvador au Salvador. Et on sait très bien que gagner au Salvador, ok, c'est pas facile. C'est pas facile. Parce que c'est une ambiance très chaude. Même le Mexique, quand il joue au Salvador, il ne gagne pas souvent. Et le Canada est allé s'imposer là-bas. Et maintenant, si on regarde, qu'est-ce que ça donne au classement, mesdames et messieurs? On a le Canada.
And you watch.
Qui est certain que dans le pire des cas, s'ils perdent tous leurs derniers matchs, ce qui n'arrivera pas, qu'ils vont au moins jouer contre le barrage intercontinental contre une autre confédération. Right? Et en plus, cette année, c'est la CONCACAF contre la zone de l'Océanie. Donc, par exemple, ça pourrait être Nouvelle-Zélande, Canada, par exemple. Right? Nouvelle-Zélande, Canada, ou... En fait, ce ne sera pas autre chose que Nouvelle-Zélande normalement, là. Mais on va voir qu'est-ce qui va se passer. Parce que du côté de l'Océanie, je crois que ce n'est pas tout à fait terminé. Je vais regarder d'ailleurs à l'instant parce que ça m'intéresse, là, du côté de l'OFC. On n'a pas l'information encore. Donc, c'est pas encore réglé. Je vous donnerai l'information un peu plus tard dans l'émission. Je ne vais pas m'égarer. Donc, maintenant, classement Canada premier, 11 matchs joués, 25 points. Deuxième États-Unis, 11 matchs joués, 21 points. Donc, 4 points de différence déjà. Toutes les équipes ont 11 matchs de joués. Mexique, troisième, 21 points. Quatrième, Panama, 17. Cinquième, Costa Rica, 16. Sixième, Salvador, 9. Jamaïque, septième avec 7 points, et le dernier 8e Honduras avec 3 points. Les matchs qui restent à jouer pour l'équipe nationale canadienne, on va vous les donner tout de suite, on va retourner sur la bonne page. Le Canada se déplace au Costa Rica le 24 mars, le Canada reçoit la Jamaïque le 27 mars, et le Canada terminera le tout le 30 mars du côté du Panama. Donc les 3 matchs qui restent, on a quand même... des matchs relativement faciles. Tu n'as pas de Salvador, tu n'as pas de déplacement ultra compliqué. Et tu joues pas les meilleures équipes de la CONCACAF. Et ce qui est intéressant, c'est que l'entraîneur John Herdman du Canada, lui, avant d'être entraîneur de l'équipe nationale canadienne, n'avait jamais entraîné une équipe nationale masculine. Il avait entraîné l'équipe nationale féminine de la Nouvelle-Zélande pendant 5 ans. Il avait entraîné l'équipe nationale féminine du Canada pendant 7 ans, de 2011 à 2018. Et depuis 2018, il est entraîneur de l'équipe nationale canadienne. Il a eu la médaille de bronze aux Jeux Olympiques en 2012 et en... Mais il n'avait jamais gagné de titre. Et maintenant, cet entraîneur, je peux vous garantir qu'une fois qu'il va quitter l'équipe nationale canadienne, si jamais il la quitte, mais on sait que généralement, il quitte, là, même celui de l'Uruguay, là, Tabarez, est parti. C'est sûr que cet entraîneur-là va être appelé. Il va être appelé à quelque part. Right? C'est un entraîneur d'ailleurs qui est anglais. Il est né en Angleterre à Consett County, Durham, England, en 1976. Donc, voilà. Maintenant, quand on regarde l'équipe nationale canadienne, mesdames et messieurs, on a certains joueurs qui sont quand même connus. Connus du grand public. Je vais vous donner la liste officielle canadienne, alors qu'on est encore dans les temps, cette merveilleuse émission de Soccer Love. Mais oui, il nous reste un peu de temps. On a quand même gardien, Milan Borjan, qui est gardien titulaire du Red Star Belgrade, qui est quand même pas rien. On a Samuel Piet, évidemment, qui joue avec, et Broguiar, qui joue avec le club de foot de Montréal. On a Derek Cornelius, qui joue à Panathinaikos en Grèce. On a Richard Lauria, qui joue à Nottingham Forest, en deuxième division anglaise. On a également Stephen Ostakio qui joue à Porto. On a Atiba Hutchinson, le capitaine de l'équipe, qui joue à Besiktas avec 92 sélections. On a Osorio qui joue à Toronto. Et on a Kyle Larin qui joue à Besiktas. On a beaucoup de Canadiens qui jouent en Turquie. Et on a Jonathan David qui joue à Lille, qui est vraiment une superstar là-bas avec Lille, qui a été champion avec Lille et qui a été très utile dans ce titre de Ligue 1 avec Lille. Donc, c'est des joueurs très utile. Et maintenant, reste à voir le Canada, qu'est-ce qu'il va faire à la Coupe du Monde. J'ai très hâte de voir ça. C'est certain, je pense que quand les gens vont voir le Canada dans leur groupe, certaines personnes vont un peu les regarder de haut. Mais par contre, je peux vous garantir que le Canada ne sera pas une équipe facile à jouer parce qu'on n'a pas encaissé beaucoup de buts, parce qu'on n'a pas été battu encore tant à l'extérieur qu'à domicile dans la zone de qualification pour la CONCACAF, ce qui est un exploit. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent dire ça, là. Right? Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent dire ça. D'accord? Donc, voilà. C'était l'information pour l'équipe nationale canadienne. Right? Maintenant, on s'en va en musique avec du Amé Laoni avec la chanson Un fil. Vous écoutez Soccer Love. On revient tout de suite après ceci. Bonne écoute. We'll be right back.
ça ira. Les trains qui s'arrêtent, c'est pour d'autres que moi. Et le relais, et le revive, c'est l'envie de tout lâcher. Renaître et revivre sans boulet qui traîne au pied. Le train qui s'arrête et je ne bouge plus. La cible, je tombe des nues. Je dois l'apprivoiser, mon hiver fragile, la voix qui tient sur un fil.
Retour à Soccer Love. Merci d'être là, chers auditeurs, chers auditrices, en ce vendredi soir, 11 février 2022. Wissam Bensta avec vous, évidemment, pour l'émission Soccer Love, tous les vendredis soirs. Donc, écoutez, maintenant, on va parler de la Coupe d'Afrique des Nations. La Coupe d'Afrique des Nations vient de se terminer. Ça s'est terminé dimanche dernier avec la finale. Vous le savez, généralement, la finale dans les grands tournois, les grandes compétitions importantes au soccer, c'est généralement les dimanches. Des fois, c'est les samedis. La Ligue des Champions, c'est souvent le samedi, je ne me trompe pas. Avant, c'était le mercredi d'ailleurs, mais bon, tout ce qui est Coupe du Monde, Euro, Coupe d'Afrique, généralement, c'est le dimanche. Et la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, on n'a pas fait exception. On avait deux belles équipes, Sénégal, Égypte. On avait deux équipes qui étaient, je vous dirais, pas favorites pour gagner. Le Sénégal était favori. L'Égypte, c'était un dans les deuxièmes. Là. C'est-à-dire, on pensait surtout à Algérie, Sénégal, Côte d'Ivoire. On ne pensait pas nécessairement à l'Égypte. Donc, il faut savoir que le Sénégal n'avait jamais remporté la Coupe d'Afrique des Nations et qu'ils avaient perdu en 2019 la finale 1-0 contre l'Algérie qui, elle, l'avait seulement gagnée une fois à ce moment-là. Donc, le Sénégal avait une très belle équipe. Elle a fait honneur à l'Afrique à la Coupe du Monde 2002. Elle a quand même fait honneur à l'Afrique à la Coupe du Monde 2018 parce qu'il faut le rappeler, ils se sont fait sortir de la Coupe du Monde à cause des cartons jaunes. Ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire de la Coupe du Monde. Right? Parce qu'entre le Japon et le Sénégal, il y avait égalité parfaite. Et le Japon avait obtenu moins de cartons jaunes que le Sénégal. Donc, le Japon a poursuivi sa Coupe du Monde. D'ailleurs, ils ont failli éliminer la Belgique en huitième de finale. On s'en rappelle avec la remontée improbable et incroyable de la Belgique alors qu'ils perdaient 2-0. Mais ça sera pour une autre émission dans un des matchs choc. Un des matchs fous de l'histoire du soccer à la Coupe du Monde. Donc, cette équipe-là arrivait. Il y avait énormément de pression. Il faisait face à une Égypte qui est d'ailleurs la tenante, pardon, pas la tenante du titre, mais qui est l'équipe africaine avec le plus de titres en Coupe d'Afrique des Nations. Ils en ont 7, 57, 59, 86, 98, 2006, 2008, 2010. Donc 2006, 2008, 2010, ça c'est 3 Coupes d'Afrique des Nations de suite. Ensuite, on avait le Cameroun avec 5, on avait le Ghana avec 4, le Ghana qui ne l'a pas gagné depuis 1982. On a le Nigeria qui y en avait 3, ils ne l'ont pas gagné depuis 2013. Côte d'Ivoire 2, 92-2015, Algérie 1990-2019, Congo 2, Zambie 1, Tunisie 1, Soudan 1, Sénégal 1, sa première en 2021 parce qu'elle l'a gagné. Donc, elle a gagné dimanche dernier. L'Éthiopie, 1. Le Maroc, 1. L'Afrique du Sud, 1. Et le Congo, 1. Congo-Brazzaville, ici. D'ailleurs, le Maroc, l'Afrique du Sud, Tunisie, Sénégal, c'est seulement un titre de Coupe d'Afrique des Nations. Donc, c'est vraiment, là, surtout l'Égypte, le Cameroun, là, qui en ont 12. Ils en ont 12. Donc, si on compte, là, c'est à peu près... C'est plus que la moitié, en fait, parce qu'on en a 4, 7, 9... Oui, c'est plus que la moitié, en fait, on dirait. C'est pas loin, en tout cas. Donc, voilà. Donc, le 11 partant du côté du Sénégal, on avait évidemment presque que des grands joueurs, parce qu'on sait que le Sénégal a énormément de joueurs qui jouent en Europe. On avait à commencer Édouard Mendy, qui est le meilleur gardien européen, qui aurait dû avoir le titre avec la FIFA. Il l'a pas eu. On l'a donné à Gianluigi Donnarumma, parce qu'il était champion avec l'Italie. Et parce qu'on sait que l'Italie, au niveau papier, au niveau publicité, au niveau marketing, ça vend plus que le Sénégal, mais c'était totalement injuste, ça devait aller à Édouard Mendy. On avait Saliou 6, défense centrale, on avait Abdou Diallo du PSG et Kalidou Koulibaly de Naples. On avait Bounassar à droite qui jouait comme latéral droit, qui jouait lui au Bayern Munich. On a Idrissa Gueye, Nampalis Mendy et Cheikou Kouyaté, donc c'était un milieu de terrain très intéressant. Et en attaque, on avait Sadio Mané, Ismaïla Sarr et Famara Dié Diou. Donc ça, c'était le 11 partant du côté du Sénégal, qu'ils étaient entraînés nul autre que par Aliou Cissé, le joueur qui a fait partie de l'équipe du Sénégal en 2002. Cette même équipe qui avait été jusqu'en quart de finale et qui s'était fait sortir par... Par qui? Par la Turquie en prolongation. Voilà. Donc, ça n'a pas été un des plus beaux matchs de l'histoire du ballon, on va se le dire. C'était quand même assez ennuyeux par moments. C'était quand même beaucoup mieux que Argentine-Brésil de la Copa América. Il y a eu quelques bons moments. Il y a eu notamment un pénalty raté à la 7e minute de Sadio Mané. L'Égypte a eu quelques belles occasions de marquer, de prendre les devants, et ils ne l'ont pas fait. Et puis finalement, ben, c'est le Sénégal qui a gagné au tir au but. Donc, on avait 5 tireurs de chaque côté. Du côté du Sénégal, Bounassar a raté le troisième pour le Sénégalais. Mais du côté de l'Égypte, Abdelmonem et Lachine ont manqué leur pénalty. Mohamed Salah n'a même pas tiré parce qu'il était probablement le dernier tireur de l'Égypte. Et comme Sadio Mané, évidemment, a marqué le pénalty victorieux du côté du Sénégal, eh bien, c'était terminé. Côté égyptien, on sait que leur gardien de but numéro 1, qui était d'ailleurs, qui est le gardien de El Ahly, hein, le Chenaoui. Il s'est blessé durant la Coupe d'Afrique des Nations, au tout début, là, durant les matchs de phase de groupe. Et c'est nul autre que Gaba Saki, le gardien du Zamalek FC, qui l'a remplacé. Et ce gardien-là a été incroyable dans la séance de tir au but contre l'Égypte, contre le Maroc, contre le Sénégal. Il a sauvé un pénalty, donc c'était incroyable. Donc ça, pour moi... c'est nul autre que le gardien du tournoi, mais évidemment, on l'a donné à Édouard Mendy, qui a aussi été bon avec le Sénégal, parce que le Sénégal n'a presque pas accordé de but durant cette compétition-là, durant cette Coupe d'Afrique des Nations. Ils ont accordé 2 buts, un contre le Burkina Faso et un contre la Guinée équatoriale. Donc, en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 matchs, seulement 2 buts accordés. Voilà. Donc, ça a été très souvent des clean sheets. Ils ont une bonne défense. Donc, ça a été quand même très intéressant du côté du Sénégal. C'est un champion qui le mérite. C'était la folie dans les rues de Dakar. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir ça sur YouTube. Il y a un très bon documentaire aussi sur la victoire du Sénégal. Pardon, pas la victoire du Sénégal à cette Coupe d'Afrique des Nations-là, mais sur la malédiction du Sénégal qui n'avait jamais gagné une Coupe d'Afrique des Nations. Évidemment, ça s'est fait avant cette Coupe d'Afrique des Nations-là. Je vais vous donner le titre. Le titre, c'est « Pourquoi le Sénégal n'a jamais gagné la CAN ?» n'a jamais gagné une CAN, pardon. C'est un documentaire de Mame Fatou Ndoye, c'est disponible sur YouTube. C'est fait au Sénégal par des Sénégalais et c'est d'une durée d'une heure et c'est très intéressant. Je l'ai partagé avec un ami qui a trouvé ça intéressant. D'habitude, il n'aime pas regarder les documentaires qui sont longs parce que c'est quand même un documentaire de une heure, mais c'est très intéressant et c'est très bien fait. Donc, tout le monde, en fait, toute la planète foot doit être content pour le Sénégal qui est aujourd'hui d'ailleurs, l'équipe la mieux placée pour faire un très grand trajet dans une Coupe du Monde, à la Coupe du Monde 2022, pardon, s'ils peuvent évidemment se qualifier parce qu'on sait que là, ils vont avoir en plus un match de barrage contre une certaine Égypte. Oui, oui, c'est-à-dire un match aller en Égypte, un match retour au Sénégal. Celui qui l'emporte sur les deux matchs est qualifié pour la Coupe du Monde et celui qui perd reste à la maison. Donc, j'ai parlé avec une Sénégalaise cette semaine et elle semblait dire qu'en fait, même si le Sénégal n'est pas qualifié pour la Coupe du Monde, ils vont être quand même contents parce qu'ils viennent de gagner la première coupe, leur première Coupe d'Afrique des Nations de leur histoire. Donc, vu comme ça, on peut penser que oui, c'est vrai. Mais d'un autre côté, une Coupe du Monde, c'est une fois tous les 4 ans. C'est pas une fois par année, c'est pas une fois tous les 2 ans, c'est une fois tous les 4 ans. Et si on voit, par exemple, que l'Égypte se fait éliminer par le Sénégal de la Coupe du Monde 2022 et qu'elle ne pourra pas y aller, ça serait une catastrophe pour le football égyptien après avoir perdu une finale et ensuite après être tombé sur le pire tirage possible. Parce que l'Égypte pouvait jouer soit la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, le Sénégal ou le Nigeria. Et elle est tombée sur le Sénégal. Et d'autant plus qu'on sait très bien que la Coupe du Monde se passe où en 2022? Dans moins d'un an, là, c'est dans moins d'un an. Elle va se passer du côté du Qatar. Qatar, pays du Moyen-Orient, pays arabe. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire que l'Égypte, Maroc, Tunisie, Algérie, pour eux, ça va être comme des matchs à domicile. Right? C'est comme si l'Argentine accueillait la Coupe du Monde, puis on parle de pays ici comme l'Uruguay, le Chili, tout ça là. C'est comme s'ils vont jouer à la maison. Je vous redonne le tirage vite fait pour les qualifications de la Coupe du Monde Zone Afrique, match de barrage. 5 matchs aller-retour, donc on a Mali, Tunisie, on a Nigeria, Ghana, on a Algérie, Cameroun, on a Égypte, Sénégal. Et on a, c'est lequel que j'ai oublié là, Tunisie, Mali, Maroc. Je me suis tout mélangé, on va les répéter un par un. On a Maroc, Congo, Tunisie, Mali, Algérie, Cameroun, Égypte, Sénégal, Nigeria, Ghana. Voilà, donc ça c'est les matchs de qualification pour la Coupe du Monde 2022. Et puis je vous le dis, j'espère évidemment être encore présent à Soccer Love quand la Coupe du Monde va avoir lieu. Parce que probablement que je ne serai pas au Qatar. Je n'irai pas au Qatar pour dépenser une bonne partie de mes économies pour aller voir des matchs. Ça ne me tente pas, évidemment. Mais, ça va être le fun. Ça va être le fun et on va en reparler. Juste à parler de cette équipe du Sénégal, là, évidemment, vous le savez, il n'y a aucun joueur de cette équipe-là, si je ne me trompe pas, qui joue au Sénégal. Ils jouent tous, presque tous, à l'extérieur. Évidemment, on connaît Sadio Mané, il joue, lui, du côté de Liverpool en Angleterre. On a le gardien Alioune Badara Fati, qui est le troisième gardien, qui, lui, joue au Sénégal. Mais sinon, il joue à l'Olympiakos, il joue au Bayern Munich, il joue à Alavés, il joue à Watford, il joue au PSG, Metz, Crystal Palace, Olympique de Marseille, Naples, Leicester, Bologne. C'est pas l'équipe du Sénégal il y a 30 ans, là. Chelsea, Rennes, QPR, Villarreal, Strasbourg. Regardez-moi ces attaquants du côté du Sénégal. Sadio Mané, Liverpool. Keita Baldé, Cagliari. Amadou Bamba Dieng, Olympique de Marseille. Boulaïdia, Villarreal. Habib Diallo, Strasbourg. Habib Diallo, d'ailleurs, qui marquait énormément de buts de l'année dernière. C'est pour ça que Strasbourg l'a signé. Et Famara Diédou, qui lui joue à Alanyaspor en première division turque. Donc voilà, écoutez, ça a été une très belle Coupe d'Afrique des Nations. On est tous contents de la victoire du Sénégal. On va vous donner évidemment les statistiques. On a les meilleurs buteurs. On a Vincent Aboubakar avec 8, suivi de Karl Toko Ekambi du Cameroun avec 5. Ensuite, c'est surtout des joueurs à 3 buts, dont Sadio Mané et Sofiane Boufal. Pour les meilleurs passeurs, Martin Angla du côté du Cameroun en a 3. Colin Sfai, Cameroun, en a 3. Issa Kabore du Burkina Faso en a 3. Côté des, des tirs, des coups francs, le défenseur Achraf Hakimi, sur 6 tentatives, en a marqué 2. Donc ça, c'est 33% d'efficacité. C'est énorme. C'est énorme. Mais le plus beau va à Youssouf Mchangama des Comores, qui a marqué un but incroyable contre le Cameroun. Alors que l'équipe des Comores, évidemment, était complètement diminuée avec le COVID qui est allé s'inviter dans leur vestiaire. Donc voilà. Écoutez, c'était ça. On peut aussi mentionner la catastrophe algérienne, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas été capables de gagner un match. Ils ont marqué un but en 3 matchs et ils ont terminé dernier de leur groupe, alors que beaucoup s'attendaient à une victoire de l'Algérie. Donc ça, ça a été une catastrophe. Et également, le match du tournoi, on peut penser le match pour la troisième place entre le Cameroun et le Burkina Faso. Le Burkina Faso menait pas 1, pas 2, mais bel et bien 3-0. Et le Cameroun est revenu de 3-0 et a fait 3-3. Et ensuite, c'était la séance de tir au but directement sans prolongation, parce que pour le match de la troisième place, pas besoin d'avoir une prolongation. Ils ont gagné au pénalty contre le Burkina Faso. Ils perdaient 3-0 et ils sont revenus 3-3. Ils ont gagné au pénalty. Et ce, avec un Burkina Faso qui jouait à 11. Et ce, sans même l'aide de l'arbitre. Donc, que s'est-il passé du côté de nos amis du Burkina Faso? Eux, évidemment, qui n'ont jamais gagné la Coupe d'Afrique des Nations, le Burkina Faso. Ils ont déjà terminé deuxième. Ils ont perdu la finale en 2013. Donc, il y a eu cette défaite pour eux. Sinon, c'est ça. Donc, ils ne l'ont jamais gagné. Le Mali aussi a perdu une finale en 1972. Voilà. C'était contre le Nigeria qu'ils ont perdu en 2013, le Burkina Faso, la finale. Donc, écoutez, prochaine Coupe d'Afrique des Nations, eh bien, ça va se passer dans 2 ans. Là, il y a des rumeurs comme quoi on veut que ça soit à tous les 4 ans, on veut que ça soit à tous les 2 ans. C'est tout le temps différent parce qu'on sait que la Coupe d'Afrique des Nations est tout le temps dans le mois de janvier-février. C'est un peu injuste parce que ça donne une couverture médiatique un peu moins forte que d'autres compétitions. Mais il faut dire aussi que l'été, il fait souvent très, très, très chaud en Afrique. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles c'est du côté de l'hiver. Mais quand c'est en hiver, évidemment, les grands championnats, eux, n'arrêtent pas. Donc, évidemment, c'est moins médiatisé et ça donne moins de glamour que si c'était en été et qu'il y avait juste cette compétition-là. La prochaine Coupe d'Afrique des Nations est cédulée pour être en 2023. Et ça sera la Côte d'Ivoire qui va l'accueillir. Et en 2025, ça va être la Guinée. Et non pas la Guinée-Bissau, mais seulement la Guinée-Conakry. Donc voilà, c'était l'information pour la Coupe d'Afrique des Nations qui vient de se terminer. On peut même rajouter, excusez-moi, je suis fatigué avec ça, là, mais j'ai oublié de vous parler de ça, mais l'Égypte, pendant qu'il y avait la Coupe d'Afrique des Nations, on sait qu'il y avait la Coupe du Monde des Clubs. Hein? La Coupe du Monde des Clubs, elle a toujours lieu. Et juste pour vous dire, petite transition avant qu'on parle de la Coupe du Monde des Clubs, eh bien l'Égypte, El Ahly, qui est le club le plus titré au monde. Il n'y a aucun club au monde qui a plus de titres officiels que El Ahly. Ça, vous l'apprenez à Soccer Love, là. C'est officiel. Right? Il y en a qui sont prêts, Peñarol, National, tout ça, là. Mais El Ahly, c'est un géant. Et eux, ils ont commencé, et presque terminé, parce qu'ils ont perdu contre Palmeiras, 2-0. Mais cette équipe de El Ahly qui a perdu contre Palmeiras, la très grande, beaucoup de titulaires étaient évidemment avec l'équipe nationale d'Égypte. Et quand ils ont battu Monterrey également, ils ont battu Monterrey sans énormément de joueurs titulaires. Right? Parce qu'ils jouaient avec l'Égypte. Même si certains évidemment étaient sur le banc, comme Mohamed Chérif, l'attaquant égyptien d'El Ahly, lui a presque pas joué. Mais quand même, entre pas jouer et faire une Coupe d'Afrique des Nations et aller en finale, je ne sais pas qu'est-ce qu'il aurait préféré là, que de rester du côté de l'Égypte pour jouer un match contre Monterrey qui oui, peut t'amener à quelque chose de grand si tu peux gagner la Coupe du Monde des Clubs. Mais si tu fais sortir contre Palmeiras après pour terminer peut-être troisième à la Coupe du Monde des clubs, c'est souvent pareil. C'est souvent pareil du côté des équipes africaines. Quoique la dernière fois, ils avaient battu, si je ne me trompe pas, Palmeiras. Donc voilà. Voilà, voilà. Non, c'était Tigres qui avait battu Palmeiras. Donc voilà, écoutez, c'était ça pour la Coupe d'Afrique des Nations à Soccer Love. Donc, on va continuer à parler de football international, c'est-à-dire moi j'aime les compétitions continentales, intercontinentales, j'aime le gros, là, les grosses compétitions, parce que les championnats c'est bien, mais ça devient répétitif. Donc là, cette année, on est dans une année de Coupe du Monde, on a eu la Coupe d'Afrique des Nations, on a eu l'Euro, là on a la Coupe du Monde des clubs, et on est déjà rendu à la finale évidemment, parce que vous savez, c'est une compétition qui n'a pas beaucoup d'équipes. C'est le gagnant de chaque zone, en fait. L'Océanie, cette année, on a eu l'AS Pirée. Du côté du club invité, on a eu Al Jazeera, parce que ça se passe du côté des Émirats Arabes Unis, donc il y a toujours un club local. L'Afrique, on avait Al Ahly. Côté CONCACAF, c'est-à-dire Amérique du Nord, on a eu Monterrey du Mexique. Champion d'Asie, on a eu Al Hilal Saoudi, l'équipe d'Arabie Saoudite, qui est d'ailleurs où est-ce que Jovinko joue. Hein? Bafétimbi Gomis, Jovinko. Méchant duo, ça joue du côté de l'Arabie Saoudite. On a Palmeiras, qui est évidemment champion de la CONMEBOL avec la Copa Libertadores. Donc, c'est tout ce qui est Amérique du Sud. Et du côté de la Ligue des champions, évidemment, c'est Chelsea. Et là, on a eu plusieurs matchs qui se sont joués. Évidemment, je le répète à chaque fois. Là, ça doit faire 2 ans que je le répète. Mais on a toujours la même compétition avec la même injustice. C'est-à-dire, l'équipe championne d'Amérique du Sud s'en va directement en demi-finale. Tout comme l'équipe directement... de championne d'Europe s'en va directement en demi-finale. Évidemment, c'est peut-être pour alléger les calendriers, je le sais pas. Mais ce qui est clair, c'est que c'est complètement injuste, surtout pour l'équipe d'Amérique du Sud, parce que l'équipe d'Amérique du Sud n'a pas toujours battu l'équipe africaine ou l'équipe asiatique ou même l'équipe de la CONCACAF de l'Amérique du Nord. Donc là, cette année, ce qui est arrivé, évidemment, je vais vous donner les résultats. On a eu Al Jazeera lors du premier match, a battu l'AS Pirée 4-1. Ensuite, on a eu dans les quarts de finale, on a eu Al Ahly qui a battu Monterrey 1-0. Al Ahly, qui veut dire le national en arabe, une équipe d'Égypte, qui d'ailleurs, comme je l'ai dit, avait une bonne partie de son effectif qui était à la Coupe d'Afrique des Nations. Ils ont quand même battu Monterrey. Al Hilal d'Arabie Saoudite a battu Al Jazeera dans le, évidemment, le match, le derby. C'est pas un derby, là, mais dans le classique arabe, 6-1. Après ça, on est arrivé aux demi-finales. On a eu Palmeiras qui a battu Al Ahly 2-0. Monterrey a battu Al Jazeera 3-1. Ça, c'était le match pour la 5e place. Et l'autre demi-finale, on a eu Chelsea qui a battu Al Hilal de l'Arabie Saoudite 1-0. Avec un but de Romelu Lukaku, désolé. Et ce qui est quand même intéressant, là, c'est qu'on parle ici du champion d'Europe. Champion d'Europe là, qui a battu le champion d'Asie avec un petit but à 0. Right? 53% de possession pour Chelsea, 47% pour Al Hilal Saoudi. Al Hilal a évidemment raté une chance en or, right? Chelsea a quand même dominé, mais quand même, ce résultat-là ne me dit pas que Chelsea ou toute équipe championne d'Europe ou toute équipe championne d'Amérique du Sud devrait aller directement en demi-finale. C'est complètement l'inverse du mérite. Ça, c'est une sorte de communautarisme qui dit que, bon, la plupart des meilleurs joueurs, historiquement, Ballon d'Or, les grands clubs, ceux qui ont plus d'argent, c'est Amérique du Sud, Europe. Donc, on va les amener en demi-finale. Ça ne marche pas, c'est totalement injuste. Totalement injuste. Et demain, on va avoir le match pour la 3e place entre Al Hilal Saoudi et Al Ahly. Right? Match pour la 3e place et la finale, pour ceux qui veulent regarder ça, c'est le 12 février, donc c'est demain. 11h30, heure de Montréal, Chelsea. Palmeiras, pour savoir qui est le king de la Coupe du Monde des clubs, qui est le club le plus grand au monde, mais évidemment, ça ne veut pas dire ça, là. Mais dans cette compétition-là, ça peut être intéressant. Quand même, c'est un trophée prestigieux, évidemment, là, pour Chelsea, s'ils peuvent le gagner, là, ça serait quand même très intéressant pour eux. Voilà. Donc ça, c'était pas mal ça du côté de nos amis de la Coupe du monde, des clubs. Donc, on va aller en musique, mais avant d'aller en musique, j'ai vu une petite nouvelle tomber, là. Kurt Zouma, c'est un ancien joueur de Chelsea. Il joue avec West Ham United. Vous avez regardé ça sur les réseaux sociaux, là. Il a fait une vidéo dans laquelle... En fait, il y a deux choses. Dans laquelle il maltraite son chat. Il y en a un où est-ce qu'il prend le chat dans ses bras, il jette par terre, puis en même temps qu'il jette par terre, il kick. Bon, il kick, ça se fait pas. Il kick pas non plus là, de toutes ses forces, mais il kick, c'est... ça se fait pas. Mais ensuite, je crois que c'est son enfant qui tient son chat, puis il lui donne une claque très fort. Très, très fort. Et là, évidemment, vous savez comment c'est. Les médias cherchent de l'attention. Les médias veulent faire lire du papier et tout ça. Cœur Dumont a une crampe au cerveau énorme. Et là, maintenant, tout le monde lui est tombé dessus. Il y a des gens qui réclament... Il réclame à Cœur Dumont, évidemment, qu'il ne joue plus jamais en équipe de France. Et pourtant, il a joué cette semaine avec West Ham en Premier League, en Ligue anglaise. Parce que maintenant, il joue à West Ham United du côté de Londres. Mais allez voir ça, cette vidéo sur YouTube. Là. Écrivez Kurt ou écrivez juste Zuma. Z-O-U-M-A, cat. Allez regarder ça. Franchement, là, en plus, c'est son frère qui filmait. Puis je sais pas comment ça s'est retrouvé sur les réseaux sociaux. Là. Je vous dis, faites attention avant de mettre des niaiseries sur les réseaux sociaux. Et frapper un chat, là, je veux dire, les deux gestes ne se font pas, honnêtement. Là, honnêtement. C'est-à-dire que quand tu jettes ton chat, il a quand même jeté de haut puis il l'a kické. Ça se fait pas. Déjà, à la base, ça se fait pas. Mais ensuite, quand tu donnes une bonne claque à ton chat, come on, en plus, c'est ton propre chat. Totalement inutile, totalement abject, totalement stupide. Et évidemment, il va recevoir une amende, mais on va voir, on va suivre ça dans les prochains jours, là, dans les prochaines semaines, qu'est-ce qui va se passer avec lui. Parce qu'il s'est fait huer par ses propres fans de West Ham United. Donc voilà, Cœur Dumont, le flop avec un F, même un PHF majuscule, flop, flop, Cœur Dumont, flop. Vous écoutez Soccer Love, on s'en va en musique avec Forever de Schwerches. Bonne écoute, chers auditeurs, chers auditrices.
My time.
De retour à Soccer Love, c'était l'excellente chanson de Sverches, Forever, une excellente artiste écossaise. Je le répète, cette chanson d'ailleurs était une des chansons dans la série sur Netflix disponible Elite. Je ne sais plus si elle l'est encore, mais c'était une très bonne série. Surtout la première saison, mais quand des fois on fait 2, 3, 4 saisons, c'est pas tout le temps aussi bon. L'exception étant évidemment Breaking Bad, Casa de Papel. Ça, c'est des classiques. Donc, voilà. Donc, maintenant, écoutez, pour terminer l'émission, on a quelques actualités à vous donner cette semaine. Je veux vous parler, je vous dis que je vous présente un championnat cette semaine, mais je veux faire ça différemment. On va vous parler des coupes. Vous savez, les coupes européennes, c'est une compétition très importante. Ça permet à des clubs de 2e, 3e, 4e, 5e division de participer, de peut-être même les gagner. C'est déjà arrivé que des équipes de 2e division gagnent. On se rappelle notamment, je crois que c'était... Je pense que c'était Wigan ou Birmingham, en tout cas. Ou même une équipe qui est reléguée, qui gagne une coupe dans son championnat. Ça te permet de participer à une coupe européenne. Parce que quand tu gagnes une coupe, tu as droit automatiquement à participer à une coupe européenne, que ce soit la Conference League, l'Europa League, principalement ces deux-là. Donc, on se rappelle de Birmingham City en Angleterre. Quand ils avaient été relégués, ils avaient gagné la coupe. Et en deuxième division anglaise, ils ont pu jouer la Ligue européenne. Évidemment, ils n'ont rien gagné. Là, je pense qu'ils n'avaient même pas passé le premier tour, mais quand même, c'était intéressant. Mais avant de parler de coupe, je veux vous parler d'un certain Christian Eriksen, joueur danois, très bon joueur de qualité, qui a fait la pluie et le beau temps avec Tottenham, même s'ils n'ont pas gagné de titre, malheureusement, avec Son, Dele Alli, Harry Kane, Christian Eriksen. Ça, c'était quatre. Les quatre fantastiques, en guillemets, de Tottenham quand les quatre étaient présents ensemble. D'ailleurs, Dele Alli vient de signer à Everton, donc vous ne le verrez plus avec nos amis de Tottenham, malheureusement. Mais Christian Eriksen, c'était un joueur qui a participé à l'Euro. C'était un joueur cadre de l'équipe nationale du Danemark. Et durant le match à l'Euro Danemark-Finlande, à Copenhague, au Danemark, il s'est écroulé, arrêt cardiaque. Il était mort pendant quelques secondes, voire quelques minutes, et les médecins danois l'ont ressuscité. Évidemment, tout le monde était en état de choc. Le match a même repris après ça. Certaines personnes avaient vu que Christian Eriksen avait levé un doigt en quittant le stade, en voulant dire « tout est correct », mais on n'avait pas l'information claire, donc beaucoup de personnes s'imaginaient que Christian Eriksen était mort sur le terrain. Et ça, c'est des choses qui arrivent. J'en ai déjà parlé à l'émission, une des émissions l'année dernière, là. Il y a beaucoup de joueurs qui sont morts sur le terrain. Et ça, depuis longtemps, là. Pas juste depuis le vaccin de la COVID, hein, parce que certaines personnes aiment bien faire ça, faire de la politique à deux balles, là. Et donc, monsieur, d'ailleurs, Christian Eriksen, au moment où ce qui s'était écroulé, n'était pas vacciné, là. Je tiens à vous le dire pour ceux qui vont sauter à des conclusions douteuses. Et là, monsieur Christian Eriksen, après tout ça, hein, je pense qu'il a reçu un pacemaker, il a signé avec Brentford, qui n'est pas une équipe de 5e division anglaise, qui est une équipe de première division anglaise, de Premier League, et il vient de compléter son premier entraînement avec cette équipe-là. Et lui, ce qu'il a dit, c'est que deux jours après son arrêt cardiaque, il savait qu'il allait rejouer. Et je vous l'annonce, mesdames et messieurs, Christian Eriksen va rejouer au soccer au plus haut niveau. Ça ne sera peut-être pas cette semaine, mais quand ça va se passer, croyez-moi, je vais vous le dire. Voilà. Donc encore une fois, on remercie beaucoup le staff médical danois qui ont fait en sorte que Christian Eriksen a pu vivre, a pu voir sa famille, et maintenant pourra rejouer au soccer. Également, autre nouvelle, Sadio Mané va avoir droit à son propre stade au Sénégal avec son nom. Donc lui qui est une légende du soccer sénégalais déjà. Avec cette victoire en Coupe d'Afrique des Nations, d'ailleurs, j'aimerais bien que Sadio Mané, hein, s'il fait une belle Coupe du Monde, hein, s'il gagne des bons titres avec Liverpool, hein, pourquoi pas lui donner le ballon d'or? Parce que vous l'avez fait avec Messi. Pourquoi pas le faire avec Sadio Mané? Si Sadio Mané avait les stats de Mohamed Salah en Premier League, je vous dirais, ah, l'affaire est catch-up, comme on dit, c'est sûr qu'il va l'avoir. Mais là, sa saison en Premier League est bonne, mais elle n'est pas excellente. J'aimerais bien avoir un deuxième joueur africain gagner un ballon d'or après George Weah du AC Milan. Donc voilà pour notre ami Sadio Mané. Maintenant, le temps file, écoutez, les coupes hein, des cinq grands championnats. On va commencer par l'Espagne. On sait que le Real Madrid s'est fait sortir par l'Athletic Club Bilbao. D'ailleurs, Benzema ne jouait pas. Avec une erreur, d'ailleurs, une relance de Casemiro qui a terminé par un beau but là, de Bilbao. On a les demi-finales. Les demi-finales, c'est deux matchs. Donc, match aller, match retour. Le Real Betis s'est imposé à Vallecano. Et Valence, Athletic Bilbao, ça s'est terminé 1-1. Les matchs retour seront les 2 et 3 mars. Donc, ça va être des équipes nouvelles qui vont gagner la Coupe du Roi parce que ni l'Atlético de Madrid, ni le FC Barcelone et ni le Real Madrid et même Séville seront en finale de la Coupe espagnole. Du côté de la France, Nantes et Monaco sera une demi-finale et l'autre ce sera Versailles et Nice. Ça va se passer du côté du 2 mars. Et on sait très bien, l'Olympique de Marseille s'est fait sortir malheureusement par nos amis de Nice dans une victoire humiliante de 4-1 pour les Aiglons de Nice. Demi-finale du côté de l'Italie, on va voir l'AC Milan contre l'Inter de Milan. Et on va voir la Juventus contre la Fiorentina. Ça va se passer du côté de l'Italie, évidemment, entre le 1er et le 2 mars. Oh, excusez-le. Sinon, on s'en va du côté du Portugal le 2 mars et en avril, on va avoir deux demi-finales portugaises de la Coupe portugaise. Le Sporting Clube Portugal qui va recevoir le FC Porto et Tondela qui va recevoir Mafra. Donc, une de ces deux équipes-là va aller en finale de Coupe portugaise. Mais on sait très bien que la Coupe portugaise, généralement, c'est Porto ou le Sporting ou Benfica ou Braga qui la gagne. D'ailleurs, je pourrais vous donner ça, là, les statistiques pour vous dire exactement ce sont qui les dernières équipes qui n'ont pas, qui ont gagné la Coupe portugaise, qui ne sont pas le Benfica, le Sporting Portugal, le Braga, tout ça. Eh bien, mesdames et messieurs, il faut remonter à 2017-2018, Deportivo das Aves qui avait battu le Sporting Clube de Portugal. Et sinon, 2012-2013, Victoria de Guimarães qui avait battu le Benfica. Donc, le champion titre, c'est Braga qui l'avait gagné en 2020-2021 contre le Benfica 2-0. Et la Coupe anglaise, avant de terminer cette merveilleuse émission, mesdames et messieurs, on est au cinquième round, donc là, c'est des huitièmes de finale. Peterborough va recevoir Manchester City, Middlesbrough va recevoir Tottenham, Southampton, West Ham, Everton, Boreham, Wood, Crystal Palace, Stoke City, Luton Town contre Chelsea, Liverpool contre Norwich City et Nottingham Forest contre Huddersfield. Voilà, ça va se passer du côté du 1er, 2, 3 et 7 mars. D'ailleurs, Liverpool qui est là, Liverpool qui souvent néglige, ça c'est un défaut que je reproche à Jurgen Klopp, qui néglige la coupe, la FA Cup, parce qu'ils veulent se focusser sur le championnat. Mais la FA Cup, c'est un titre très important et je pense que M. Klopp devrait gagner la FA Cup parce qu'on sait évidemment que le championnat anglais, normalement, devrait être dans les mains d'un certain Kevin De Bruyne et de Manchester City, évidemment. Donc, voilà. Et maintenant, juste pour vous donner là, les derniers titres de la FA Cup. Le tenant du titre de la FA Cup, c'est Leicester qui avait battu Chelsea. Avant ça, c'est Arsenal qui avait battu Chelsea, Manchester City. Donc voilà. La dernière équipe, petite équipe entre guillemets, là, qui l'a gagné, c'est évidemment Wigan Athletic en 2012-2013 contre un certain Manchester City. Et sinon, Portsmouth avait gagné en 2007-2008 contre Cardiff City. Donc, pour terminer l'émission, je vais vous donner les matchs à venir. Il y en a beaucoup. Donc, évidemment, demain, le 12 février, on a l'Espérance de Tunis qui reçoit Galaxy FC. Là, on parle de la Ligue des champions africaines. Elle est de retour. On a Villarreal qui reçoit le Real Madrid. On a Zamalek qui reçoit les Angolais de Luanda. On a Horoya contre Sétif. Et on a un très gros match. Demain, Napoli reçoit l'Inter de Milan. Si le Napoli gagne, ils sont de retour dans la course pour le titre de champion d'Italie. Et on a Raja Casablanca, Ama Zulu, Ligue des champions africaines, Olympique Lyonnais contre l'OGC Nice. C'est demain 15h. Et Santos Laguna contre un certain Club América dans la Ligue mexicaine. Le dimanche 13 février, l'Ajax reçoit Twente, Metz reçoit l'Olympique de Marseille, l'Atalanta reçoit la Juventus. Et on a le derby de Barcelone, l'Espagnol qui reçoit le FC Barcelone. Le mardi, mercredi, jeudi, on a la Ligue des champions, l'Europa League, la Conference League. On a Ligue des champions mardi, mercredi, Sporting Club de Portugal qui reçoit Manchester City. Le PSG reçoit le Real Madrid. Gros match. Le Red Bull Salzbourg reçoit le Bayern Munich et l'Inter reçoit Liverpool. Je veux vraiment que Sadio Mané gagne cette Ligue des Champions. Ligue des Champions, Coupe d'Afrique des Nations. Et on donne le ballon d'or à un joueur africain. Finalement. Il faut le faire. Come on, guys. Jeudi, on a la Ligue Europa et la Conference League. Donc, on a dans l'Europa League, on a Borussia Dortmund qui reçoit Rangers, Barcelone, Napoli, Zenit reçoit le Real Betis et le Sheriff Tiraspol reçoit le Sporting Braga. On a aussi l'Atalanta contre l'Olympiakos, Leipzig contre Real Sociedad, Séville contre Dynamo Zagreb et FC Porto contre Lazio. On a beaucoup de bons matchs. Moi, je préfère honnêtement la Ligue Europa là, à la Ligue des Champions pour le regarder parce que les matchs sont plus exotiques, disons. Conference League, qui est la troisième compétition européenne. PSV reçoit Maccabi Tel Aviv. Fenerbahçe reçoit le Slavia Prague. Midtjylland du Danemark reçoit le PAOK. Le Rapid Vienne de l'Autriche reçoit Vitesse des Pays-Bas. On a l'Olympique de Marseille qui reçoit Karabag. Celtic reçoit Bodø/Glimt de la Norvège. Leicester reçoit Rangers. Et Sparta Prague reçoit le FK, le Partizan Belgrade, en fait. Lundi. Et puis, non, en fait, lundi, on va être de retour après ça. Ça, c'est pour moi. Donc, voilà, chers auditeurs, chers auditrices, j'espère que vous avez aimé cette émission. Si vous avez des suggestions, vous voulez écouter une chanson, vous voulez participer à l'émission, vous voulez qu'on vous donne une entrevue pour parler de votre implication dans le monde du soccer, ben, vous m'envoyez un courriel. soccerlovecfac@commercialgmail.com. soccerlovecfac@commercialgmail.com. Je vous souhaite une bonne semaine et, comme on dit en français, stay safe. Au revoir.